Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale. Le podcast qui décode le stress et ses sources dans l'entreprise. Chaque épisode est une opportunité de dire stop à la charge mentale, une nécessité pour l'équilibre de chacun et la santé de tous. Je suis Magali Siméon, entrepreneure, experte du futur du travail et maman de 3 enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Plus personne aujourd'hui ne discute la nécessité d'avoir des équipes représentatives de notre société et donc des équipes diverses. En tout cas, j'espère que plus personne ne le discute parce qu'on parle ici de justice sociale. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui nous reste à trouver, c'est le comment et comment éviter que des bonnes intentions puissent être abîmées par des mauvaises pratiques. Je reçois aujourd'hui Maya Ajej, hein, qui est la déléguée générale de l'AFMD. C'est son job, elle va nous parler de ça et elle va expliquer aux managers comment ils peuvent alléger leur charge mentale sur ce sujet et être plus sûrs de faire ce qui est juste dans leur équipe. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Maya.
Bonjour.
Maya, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs ?
Bien sûr. Donc je suis la déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité. Je travaille dans cette association depuis 2011 et j'ai petit à petit grimpé les échelons pour arriver au poste de déléguée générale, c'est-à-dire que je m'occupe de la stratégie de l'association que je présente et que je co-construis avec le conseil d'administration. Je travaille sur le développement de l'association, la supervision des activités, le management des équipes, donc vraiment toute la partie plus positionnement, représentation et orientation de l'association.
On va parler aujourd'hui beaucoup de diversité et d'inclusion. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'objectif de votre association ? Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir ? Pourquoi ? Et puis pourquoi vous êtes investi dans cette association ?
Le point de départ de l'association, c'était de rassembler des managers qui sont maintenant devenus des responsables diversité dans un lieu pour échanger sur la gestion des équipes. Ça, c'est le point de départ. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui à l'association, c'est qu'on est une communauté d'entraide sur l'ensemble des thématiques de prévention des discriminations, également sur les enjeux de management de la diversité et enfin sur les politiques d'inclusion. Et on est vraiment cette communauté d'entraide dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le grand volet d'action de l'association, c'est la recherche. Donc, on va faire le pont entre la recherche scientifique et pratique professionnelle. On va le faire à travers différents canaux et si on a le temps, on parlera de détails. Et enfin, le troisième volet, c'est qu'avec ces deux jambes, la communauté d'entraide qui est très pratique et la recherche, on va proposer des outils de plein de formats différents qui seront gratuits pour tout le monde, qu'on soit membre ou non membre de l'AFMD. Donc ça, c'est qui on est et pourquoi moi je travaille là-dedans et qu'est-ce qui m'a intéressé. C'est que donc, quand j'étais encore en master, je me suis, même en licence d'ailleurs, je me suis investie dans une association qui s'appelle Mosaïque Dauphine, qui était une association d'étudiants pour valoriser la diversité des étudiants et des parcours à Dauphine. Et donc, je me suis vachement intéressée à ces questions-là et c'est surtout plein de gens qui m'ont ouvert les yeux, des gens maintenant d'ailleurs qui sont des diplomates, des dirigeants d'organisations. Et je me suis dit, OK, en fait, il se passe des choses, les gens ne sont pas si ouverts que ça et donc, il ne faut pas seulement se dire que les choses vont se faire seules, il faut agir, quoi. Ça, c'était vraiment mon point de départ. Et puis après, je suis arrivée dans l'asso parce que j'ai été convaincue par une entreprise qui s'appelle L'Oréal. J'ai été convaincue de l'intérêt pour l'entreprise de mener des actions qu'on appelle des actions diversité aujourd'hui. En 2009, ce n'était pas exactement ça. Bon, les mots n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est un peu ça qui m'a drivée. Et aujourd'hui, il y a encore ces drivers de faire de la diversité, je mets des guillemets à faire de la diversité, c'est déployer des actions de justice sociale dans un premier temps, et c'est vraiment le point de départ, s'assurer de l'égalité des chances, l'égalité de traitement, que chaque personne est inclue, Et ça fait partie des arguments et des discussions qu'on a pour convaincre évidemment des employeurs de prendre les choses en main. Mais il y a plein d'autres enjeux. Il y a des enjeux de marque employeur, évidemment, qui sont de plus en plus forts. Et on voit le nombre d'articles sur le sujet, le nombre de colloques maintenant sur ce sujet-là. Il y a des enjeux évidemment de cohésion d'équipe, qui est vraiment pour moi, j'allais dire, le pendant de la justice sociale, la cohésion sociale finalement. Il y a des enjeux de qualité de vie au travail, bien sûr, réduire l'absentéisme, réussir la conciliation des temps de vie, ou encore il y a aussi des enjeux aussi de mixité des métiers. Et ça, c'est un sujet assez, j'allais dire, assez prégnant, parce que depuis que je travaille dans cette association, la mixité des métiers, c'est une constante. Et donc, je me dis qu'il y a encore beaucoup de boulot là-dessus pour casser les préjugés, les stéréotypes, diversifier les viviers de sourcing, etc., etc. Et puis, bon, je termine, et parce que c'est important de le souligner aussi, il y a enfin des enjeux économiques qui sont doubles, économiques au sens pur, c'est-à-dire productivité des employeurs, et des enjeux économiques au sens financier. Et on voit avec la directive CSRD qui se transpose dans la loi française, qui va probablement pousser un certain nombre d'entreprises à revoir leurs indicateurs du S de l'ESG. Donc, voilà, tout ça, c'est assez intéressant et ça pousse, c'est l'ensemble de ces enjeux qui fait que bah, chaque association de notre écosystème, et il y en a plus de 300, est vraiment investie pour faire bouger les employeurs et travailler avec les employeurs d'ailleurs.
Quand je vous entends, quand je vous écoute, ce que j'entends, moi je suis moi-même dirigeante d'une entreprise, alors d'une vingtaine de salariés, qui est une petite entreprise, mais finalement, en vous entendant, je me dis, si on veut avoir une équipe diverse et donc représentative d'une société qui est devenue diverse, ça ne se fait pas sans intention, ça ne se fait pas sans accompagnement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a un accompagnement, il y a des actions à mettre en place. Et c'est là-dessus que vous aidez aussi ?
Oui, tout à fait. Et je pense que si on reprend même, alors sans pour autant faire des calques, hein, mais on va prendre le sujet de l'environnement. En fait, on est sur des évolutions assez similaires de manière macro, je veux dire. Là, on voit bien que ça fait des dizaines d'années qu'il y a eu d'abord des alertes. Ensuite, il y a eu des entreprises qui ont commencé à travailler sur des enjeux environnementaux. Ensuite, il y a une fonction qui s'est créée petit à petit. Il y a des jalons qui ont été mis et pour autant, on avance, mais assez lentement. C'est un peu le même système sur les thématiques de diversité et d'inclusion, parce qu'il y a eu de la même manière des mouvements sociaux qui ont poussé des obligations légales. Ces obligations légales, elles sont poussées des entreprises. Et petit à petit, une fonction s'est créée il y a une quinzaine d'années, mais qui est encore enfin, assez neuve, hein, finalement. Et donc, on est vraiment sur les mêmes dynamiques. Et on voit bien que les choses ne se font pas ni en un claquement de doigts, ni juste parce que même une ou deux personnes dans l'entreprise ne suffisent pas à changer l'entreprise, quoi. C'est un changement individuel, mais aussi structurel. Pour ça, il faut un accompagnement. C'est pour ça que je trouve, de la même manière, dans la dynamique qui doit s'opérer, ce qui est intéressant, et dans le dernier parallèle que je ferai avec les questions environnementales, entre la création de la fonction et les obligations légales, il y a également la création d'un consensus. Et je reviens sur des discussions qu'on peut entendre, c'est-à-dire qu'il y a un consensus sur l'obligation d'égalité de traitement. Tout le monde est d'accord, c'est normal qu'il y ait une obligation, que quand on recrute, ce soit logiquement sur les compétences et donc égalité de traitement. Il y a des consensus sur le fait que bah, c'est important d'inclure tout le monde, consensus. Il y a des consensus sur l'égalité des chances également. Ah, mais c'est bien de donner sa chance à tout le monde. Et après, il y a d'autres choses qui font moins consensus. Et c'est là où on voit parfois et on entend on parle de polarisation des discours. Les consensus, ils se font moins sur les objectifs que sur les résultats ou les types d'actions qui sont menées. Et c'est là où l'accompagnement, il se fait aussi. Et pas seulement sur concrètement quelle action mettre en place, quel indicateur, qui convaincre, etc. Il y a un vrai accompagnement sur comment on réduit ou on dépolarise les discours.
Et alors, comment vous accompagnez-vous dans votre association ?
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'activités. Mais la première activité la plus forte, c'est la communauté d'entraide. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on fonctionne un peu D'abord, je suis comme une démocratie. Donc, tous les sujets qu'on traite à la FMD sont votés par l'ensemble des membres. Ça, c'est la première chose. Et on va proposer, donc dans les thématiques à traiter, on va proposer des thématiques qui dépendent aussi des niveaux de maturité. On n'en est pas tous au même moment de sa vie sur ce sujet. On n'a pas tous les mêmes moyens. Et donc, bah, on va proposer pour des entreprises publiques comme privées qui veulent se lancer des actions plutôt sur des sujets plutôt des fondamentaux, le béaba. Sur des entreprises qui sont là depuis très longtemps et qui ont déjà mis en place plein d'actions sur des sujets, par exemple, en lien avec les obligations légales, on va plutôt se dire, OK, c'est quoi le trou dans la raquette? Et on va creuser ces thématiques. Pour les entreprises qui ont plutôt envie d'innover, on va proposer des ateliers exploratoires. Mais donc, il y a à la fois ce questionnement sur les thématiques et ce questionnement sur les niveaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour faire communauté, il faut que les gens tissent des liens les uns avec les autres. Et donc, à la FMD, on essaye, on trouve les moyens de faire en sorte que, en fait, nos membres se connaissent et puissent se poser des questions. Alors, on n'a pas de forum d'échange en live, mais on a, par exemple, tous les jeudis de 13h à 14h, des cafés à FMD où des membres vont poser des questions à d'autres membres. Nous, on est là si besoin, mais en vrai, c'est leur moment à eux. Ou par exemple, des membres vont demander à être mis en relation avec d'autres membres parce que dans un café ou dans un parcours, ils ont vu ou entendu une action et ils voudraient aller plus loin. Donc il y a réellement cette idée de communauté. Et la dernière chose qui va dans ce concept-là, c'est, je vais presque dire, le don et le contre-don. C'est-à-dire qu'on est membre de la FMD, on reçoit de l'info, on reçoit de l'inspiration, on reçoit des idées, des formats d'animation, mais on donne. Et en fait, on donne, par exemple, on partage le guide qu'on vient de terminer et qui a été discuté pendant une des réunions, par exemple. On donne son plan de formation, recruter sans discriminer. On va donner le programme de sa semaine de conciliation des temps de vie. Voilà, vraiment, il n'y a pas, non pas qu'il n'y a pas de concurrence, mais en tout cas, il y a plus de la co-construction et de l'alimentation, enfin l'auto-alimentation, quoi, de l'auto-enrichissement sur ces thématiques-là. Et pareil, dans les dons de nos membres vers la FMD, ben, il y a ouvrir les portes, ouvrir ses portes, ce qui est assez difficile pour un employeur de manière générale à la recherche. C'est-à-dire laisser entrer un chercheur, une chercheure, la laisser poser des questions, voir ce qui se passe. On peut aussi ne pas être sur des entretiens qualitatifs, on peut être sur de l'observation participante. Il y a plein de méthodologies de recherche. Et donc, voilà, ça c'est aussi une manière d'accompagner, parce que tout ce qu'on va apprendre grâce à la recherche, on va pouvoir le transformer et le diffuser assez largement.
Les personnes qui viennent chez vous, ce sont les représentants dans les entreprises qui portent cette vision de la diversité. Et comment après ça redescend sur les managers? Parce que les managers sont ceux qui doivent animer et manager des équipes diverses. Comment ça se passe? Et comment on accompagne? C'est quoi le rôle du manager dans cette ambition-là en fait?
Effectivement, en plus, depuis le début de la création de la FMD, on parle de transformation managériale. Dans notre nom, il y a le mot manager. Donc, évidemment, on est directement touché par ce rôle qui est assez flou, parce qu'il y a différents types de managers, et en fait, selon le rôle, finalement, selon le niveau, le rôle n'est pas le même. Pour répondre à la question, là, je pense que le premier point, c'est nous, ce qu'on va faire, c'est de l'accompagnement collectif. C'est-à-dire qu'on va donner les outils pour que ces personnes, donc effectivement les personnes avec qui nous on travaille, ce sont soit des personnes dont c'est le job, donc vraiment ce qu'on appelle des responsables diversité, soit ce sont des leaders de réseau, par exemple. Donc parfois en interne, il n'y a pas de poste, mais il y a une personne, en plus de son job, qui a porté un réseau interne sur une des thématiques. Ou bien il y a parfois des comités internes diversité qui se sont créés avec des gens de plein de services. Et donc nous, c'est l'idée, c'est de leur donner les outils de compréhension et les outils d'action. Et après, c'est eux qui déploient. C'est pas la FMD qui va faire ce déploiement. Et donc pour donner un exemple, on avait travaillé sur l'apparence physique au travail. Ça, c'était en 2015. Le besoin, c'était de plutôt parler de qu'est-ce que c'est que l'apparence physique, pourquoi. Parce que le premier point, c'était pourquoi c'est un sujet. Pourquoi il peut y avoir des discriminations sur l'apparence physique. Et pourquoi ça peut être un poids justement l'apparence physique. Et donc ça, ben, c'était un outil pour les personnes dont je vous parle directement vers les managers. Un deuxième exemple, c'est qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps un mode d'emploi justement sur le management de la diversité et de l'inclusion. Et à l'intérieur, ben, on a évidemment posé plein de questions à des managers pour qu'ils nous expliquent un petit peu, ben, est-ce qu'ils trouvent que c'est leur rôle, la transmission des valeurs de l'entreprise et notamment des valeurs de diversité et d'inclusion? On leur a demandé, mais comment ça fonctionne? Quelles sont leurs compétences? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être évalués sur ces compétences managériales-là? Et donc, on en a créé un outil directement qui peut être utilisé tel quel par des managers. Par exemple, c'était très intéressant parce que première info que ça nous a donnée de créer ce kit, c'était que 72% des managers pensent que transmettre les valeurs de diversité et d'inclusion est dans leur mission. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent leur rôle. Ils reconnaissent leur rôle. Mais après, quand on posait d'autres questions sur qu'est-ce que c'est que la diversité, qu'est-ce que c'est que l'inclusion chez eux et pour eux, là, les questions, ils n'étaient pas exactement pareilles. Pareil, dans ce kit, vous allez trouver les postures du manager, posture d'exemplarité, d'application de ces valeurs dès l'accueil, dès l'intégration. Vous allez trouver l'importance des postures de vigilance, de pédagogie, par exemple face à des blagues, du harcèlement. Et enfin, beaucoup de discussions qu'on a eues autour de la sanction. Parce que finalement, le rôle du manager, c'est aussi de sanctionner. Ce n'est pas de faire que des rappels à l'ordre. C'est qu'à un moment donné, une personne, après plusieurs rappels à l'ordre, elle doit être sanctionnée parce que sans sanction, on ne peut pas parler d'exemplarité. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a encore énormément à faire parce que souvent, le manager, il n'est pas reconnu pour cette partie du job. Et ça, pour moi, c'est vraiment la prochaine étape.
Et alors, vous nous avez parlé plusieurs fois de recherche. Comment est-ce que vous faites le lien entre la recherche et l'expérience pratique? À quoi elle vous sert cette recherche finalement? Vous en faites quoi?
Bon alors, on a parlé du fait que les entreprises ouvrent leurs portes pour faire entrer des chercheurs. Nous, ce qu'on fait, l'étape d'après, c'est de vulgariser cette recherche. Donc, je vais vous donner un exemple assez concret. Il y a quelques années, on a soutenu une recherche sur l'expression religieuse au travail. Il y avait une personne qui a interviewé et travaillé avec quatre types d'organisations. Il a rédigé sa thèse et nous, ce qu'on a fait ensuite, c'est pendant un an, on a accompagné cette personne et on a travaillé avec lui pour transformer sa thèse en quelque chose qui soit clair, utilisable par n'importe quel employeur. Ça, c'est notre premier type d'action. Notre deuxième type d'action sur le pont entre la recherche et la pratique professionnelle, c'est ce qu'on appelle les groupes de travail. Les groupes de travail, c'est une méthodologie depuis le début de la FMD où on choisit un sujet et donc là, c'est vraiment notre sujet, le sujet de cette année, on en a un par an, c'est l'implication et la reconnaissance des managers dans le cadre des politiques diversité et inclusion. Donc là, on est dans le thème. Ces groupes de travail, ils sont copilotés par un ou une chercheure et par un employeur, membre de la FMD. Et pendant 4, 5, 6, 7 séances de travail, on va explorer tous les aspects de ce même sujet. On va regarder ce qui se fait par exemple dans les formations managers, on va avoir des présentations d'entreprises, on va avoir des présentations d'experts, de la recherche. Et le rôle après du chercheur avec qui on travaille, c'est de synthétiser tout ça et de le transformer pour en faire, j'allais dire, des réponses à la problématique initiale. Donc là, je vous disais, la problématique, c'est comment on peut reconnaître et impliquer les managers. On verra dans un an et demi. Ben, les réponses à cette question. Mais c'est vraiment une méthodologie qui fonctionne très bien parce que ça fait vraiment 17 ans qu'on l'utilise et ça a toujours été extrêmement riche d'enseignements.
Je crois que vous avez fait quelque chose sur le management, l'inclusion et le numérique dans cette forme-là.
Oui, de temps en temps, on a des projets, un peu des ovnis à la FMD, à la demande de beaucoup de nos membres. On avait lancé un projet sur les managers et on avait choisi de le faire dans le secteur du numérique parce que il nous semblait que le secteur du numérique pouvait cristalliser un certain nombre d'enjeux qui pouvaient se voir dans d'autres secteurs. Et donc, on a, dans ce projet-là, interviewé, donc d'abord fait un questionnaire, donc plutôt du quantitatif, des managers et des responsables diversité qui devaient proposer des choses à des managers. On a fait des ateliers, donc plutôt du qualitatif, des ateliers de travail avec les managers qui ont répondu au questionnaire. Et puis, à la fin, on a validé avec eux, on en a sorti le mode d'emploi dont je vous parlais. Mais c'était un projet assez long en partenariat avec Numéum. Tout est très bien expliqué sur la docuthèque de la FMD, sur les enseignements, et une partie des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure proviennent de ce projet-là.
Imaginons, enfin non, imaginons pas, moi je ne me suis pas encore posé la question de la diversité et de l'inclusion dans mon entreprise. Par quoi je commence? C'est quoi les trois premiers conseils que vous me donneriez, Maya?
Voilà, c'est dur comme question. Le premier conseil, je pense que ce serait baliser le sujet, le cadrer. Qu'est-ce que vous voulez faire, sur quoi vous voulez travailler de manière très concrète? C'est quoi ce qui vous dérange? Et pour répondre à cette question, il ne faut pas être dans des grands questionnements, il ne faut pas être vraiment dans des discours de surface, il faut prendre des choses très concrètes. Ça, pour moi, c'est la première étape, parce que la deuxième étape, c'est de comprendre le sujet que vous avez balisé dans votre organisation. Donc, c'est un peu comme si vous faisiez un diagnostic pour essayer de voir est-ce que vos intuitions et est-ce que les problèmes que vous ressentez, ils sont réels. Et ils sont réels pas que pour vous, mais aussi pour l'ensemble du collectif. Et puis, le troisième conseil, c'est de ne pas rentrer tout de suite dans des grands plans d'action, dans des grandes feuilles de route, mais de bien définir des actions qui répondent aux moyens que les personnes ont, quoi, que vous avez, mais par contre qui répondent directement à la question que vous vous êtes posée au début. Parce que ce qu'on peut voir parfois, c'est que on se dit, ben, on va travailler sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, en fait, on va calquer des choses qu'on voit par ailleurs, mais qui ne correspondent pas forcément aux besoins ou au contexte, etc. Donc, voilà, je dirais plutôt de vraiment circonscrire le plus possible la réflexion à l'étape 1, identifier, l'étape 2, comprendre, l'étape 3, mettre en place une, deux actions maximum, mais qui soient efficaces. Et donc, trouver des indicateurs d'efficacité de son action.
Donc en fait, il faut que je réfléchisse à mon intention. C'est par ça que je dois commencer. C'est quelle est mon intention et est-ce qu'elle est partagée par le collectif? Parce que, ouais, parce que si elle n'est pas partagée, il y a un autre travail pédagogique à faire.
Exactement, exactement. C'est ça. Vous avez tout compris, vous pouvez commencer demain.
Mais je n'exclus pas de dormir dessus. Merci beaucoup, Maya. Merci pour toutes ces explications.
Avec plaisir et au plaisir de revenir sur le podcast.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus? Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.